France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le voilà enfin. Il s'est beaucoup fait attendre. Il a aussi fait les frais de la dissolution. On essaiera d'avoir la confirmation, qui ne fera pas les frais des efforts budgétaires vers la défense. Voici donc enfin le plan gouvernemental d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut imaginer une France à plus 4 degrés, plus chaude, plus sujette aux épisodes climatiques intenses dans lesquels il faudra vivre, habiter dans des logements adaptés, se nourrir grâce à une agriculture qui fonctionne malgré les températures qui ont changé. Une France dans laquelle il faudra des transports adaptés, une France qui devra adapter ses activités humaines, renoncer à ses littoraux déjà largement mangés par l'érosion ou pas, repenser l'habitat aussi dans les zones inondables, une France plus sujette aux incendies, il faudra savoir se préserver de tout ça, une France où il y aura moins de neige ou peut-être même pas du tout. On a bien compris qu'adapter ne veut pas dire renoncer à faire baisser la température. On se le fera quand même confirmer. Vous viendrez sur les sujets qui vous tiennent à cœur ce soir. Faut-il cesser de construire dans certaines zones, voire détruire les maisons dans les endroits maintes fois inondés? C'est rude pour ceux qui habitent. Sommes-nous sommés de corriger nos logements quand ils sont énergivores? Nous sommes sommés de le faire. Devons-nous faire la même chose pour contrer la canicule? Qui va m'assurer? Est-ce que je suis sûr que les assurances suivront toujours? Quelle politique pour utiliser l'eau rationnellement à cet horizon de plus 4 degrés? Et puis qui va payer? On y reviendra avec la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui est avec nous et qui va répondre à vos questions. Est-ce que l'écologie a encore sa place dans le contexte qui est le nôtre désormais? Est-ce qu'elle a encore de l'argent? Est-ce que, quelques mois après la Cour des comptes, souvenez-vous, on a tiré les leçons d'un mur d'investissement qui était devant nous pour nous adapter? C'est ce que disaient les sages à ce moment-là. C'est là que nous sommes, en tout cas, au pied du mur. Et si le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marion, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien?
Mais je vous entends très bien.
Très bien.
Bah, Agnès Pannier-Runacher aussi, on vous
très
écoute.
Très bien, parfait. Quand je vais m'adresser à elle. Bah, d'abord, je vous remercie de prendre ma question. Je m'y attendais pas, donc j'ai le trac, mais c'est bon.
Respirez par le ventre, Marion, ça va aller.
Oui, ça va aller. Et voilà, écoutez, moi, mon appel, en fait, c'est très bien de vouloir s'adapter au changement climatique, mais avant de s'adapter, c'est bien aussi de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils ralentissent. Et je suis quand même un peu surprise parce que notre gouvernement, je vais donner un exemple, mais il y en a énormément en fait. L'exemple, par exemple, de l'arrêt pour l'instant de l'autoroute A69, et que en fait le gouvernement veut tout faire. Et je pense que la ministre de la Culture est de cet avis pour relancer ce chantier qui a un chantier qui a déjà détruit énormément.
Marion, on vous a entendu, Marion, merci beaucoup. Sur la 69, vous êtes très nombreux, donc on va y aller. On ne voulait pas y aller dès la première question, mais ce n'est pas grave, allons-y. D'abord, je vous salue, Agnès Pannier-Runacher, merci beaucoup d'être
bonjour,
avec
Fabien
nous au téléphone sonne, merci vraiment. Célia Kiré est là également,
bonsoir
la spécialiste environnement
bonsoir,
de France Inter. On va faire ça dans l'ordre avec la question de Marion. D'abord, s'adapter, c'est bien, mais le mieux, c'est quand même de ralentir le réchauffement climatique.
Mais totalement, c'est pour ça que la politique du gouvernement, comme les politiques des pays sérieux en matière de transition écologique, c'est deux pieds. Un pied, on continue à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et je veux rappeler ici que depuis 2017, on les a baissées de 20% sur cette seule période. Donc c'est un effort considérable. Il faut regarder que depuis 1990, on les a baissés de 30%. Donc c'est vraiment sur ces 7 dernières années qu'on a réussi chaque année à baisser nos émissions de gaz à effet de serre de manière continue et en accélérant. Et l'objectif, c'est de continuer, et c'est tout l'enjeu de la planification écologique qui comporte un certain nombre de textes, des textes pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre d'un côté, et des textes pour l'adaptation au changement climatique. Pourquoi il faut s'adapter tout en baissant les émissions de gaz à effet de serre? Parce qu'on le constate aujourd'hui, il y a des canicules. Donc, s'adapter à ces canicules, alors même qu'on baisse les émissions de gaz à effet de serre, c'est nécessaire. On ne va pas attendre d'être à la neutralité carbone pour s'apercevoir que il y a des personnes âgées qui vivent mal les canicules, qui ont des décès précoces, pour s'apercevoir que les jeunes enfants aussi, pour avoir des maladies. Donc les deux politiques sont menées en parallèle. Et lorsqu'on donne ce chiffre de plus 4 degrés à horizon 2100, c'est la prévision des experts scientifiques avec la France qui réalise la neutralité carbone en 2050. Donc, il faut être bien conscient de ça, c'est-à-dire que quand bien même on fait cet effort-là, nous, la France, le réchauffement climatique sera quand même à nos portes.
Ça veut dire qu'on... expliquer juste, je fais une petite parenthèse, que effectivement, si vous vous projetez sur une France à plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 en 2100, c'est parce que la France fait partie d'un continent
plus vite.
Se réchauffe plus vite que le reste de la planète où on est plus sur une moyenne de degrés. Sur ce que vous disiez sur l'adaptation et l'atténuation, est-ce que tout de même certains crédits que vous mettez aujourd'hui sur l'adaptation ne vont pas manquer sur l'atténuation pour répondre à la question de l'auditrice ?
Mais non, enfin, je veux dire, attention, parce qu'on a jamais eu des budgets aussi importants. On a plus de 20 milliards d'euros cette année sur la mission écologique. Et contrairement
à ce qu'on entend dire... par rapport à l'an dernier, quand même.
Non, c'est faux.
Vous en perdez 2 milliards, vous le dites vous-même.
Non. Attention.
Sur la mission écologie du budget, vous perdez 2 milliards
entre 2025... Je ne perds pas 2 millions, je vous rappelle. 2 milliards. Je vous rappelle les chiffres. On en gagne 600 millions d'euros. Ça, c'est les vrais chiffres.
Ça, c'est sur l'adaptation, mais sur le budget.
Non, mais vous l'avez dit vous-même.
Excusez-moi, vous êtes en train
d'aller jusqu'au bout.
Excusez-moi, vous êtes en train de perdre les auditeurs les unes les autres. Moi, je voudrais savoir, disons les choses très simplement, là par exemple, le plan d'adaptation, 52 mesures, combien d'argent ?
1,6 milliard. 1,6 milliard sur l'année 2025. Et je veux redire de manière très claire, le budget de l'ensemble de la mission écologique est en progression par rapport au budget de l'année dernière. C'est très important de le dire. Moi, j'avais effectivement visé un certain nombre d'enveloppes, et on ne va pas perdre tout
donc
le monde.
Donc c'est 2 milliards en moins par rapport à ce que vous vouliez ? C'est ça que vous avez dit ?
Tout à fait.
D'accord, ok, c'est une précision importante.
Où est-ce que vous voyez le 1,5 milliard ? Parce que
Un milliard sur les agences de bassin, les agences de l'eau qui soutiennent des mesures en faveur de l'adaptation au changement climatique, notamment des solutions dites fondées sur la nature. Hein.
Et ça, c'est des crédits
qu'elles
avaient déjà.
Donc ça, c'est les crédits déjà alloués qui sont orientés.
Et qu'elles ont encore cette année en 2025.
Voilà, ça, c'est un budget maintenu.
C'est un budget qui progresse parce qu'on investit de plus en plus sur ce volet adaptation et sur les solutions fondées sur la nature. 260 millions d'euros qui viennent du Fonds vert et qui sont dédiés, et ça c'est en progression par rapport à l'année dernière, à l'adaptation au changement climatique. Et une enveloppe qui est celle qui est liée à la fois au Fonds Barnier.
Et 75 millions sur les 300 millions du Fonds Barnier, mais ça encore ce sont
non,
des...
Non, c'est 300 millions.
Par rapport aux 300 millions.
Barnier, c'est 300 millions de Fonds Barnier et 30 millions spécifiquement sur le retrait gonflement d'argile, donc c'est 330 millions, plus 260, plus 1 milliard.
Et sur le fond vert, juste une précision, et puis après peut-être qu'on arrêtera avec ces chiffres, mais c'est important, plus 260 millions pour le fond vert, c'est très bien, on ne peut que s'en réjouir, mais le fond vert a quand même été diminué de moitié entre 2024 et 2025, ça on ne peut pas le nier. Donc c'est un rattrapage surtout,
mais
tant mieux.
Pas tout à fait de moitié, mais au-delà de ça, moi j'ai sécurisé...
2,5 à 1,2 milliard, c'est la moitié.
Par rapport à ça, j'ai également sécurisé des financements de la Caisse des dépôts en très forte progression qui prennent le relais du fonds vert. On ne va pas rentrer dans la technicité, mais pour le dire très simplement, en réalité, les financements de l'État aujourd'hui sont en progression pour une raison très simple, c'est que les besoins sont en progression et qu'ils suscitent l'augmentation de ces financements. On le voit sur les énergies renouvelables, on le voit sur l'adaptation au changement climatique.
Et est-ce qu'on est
sûr ? Et on le voit aussi dans les collectivités locales, puisqu'elles-mêmes sont en train... de verdir leur budget, mais pas sous l'impact des besoins de leur population et des demandes de leur population.
Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, il est 19h29, on est au début du mois de mars et on sait très bien ce qui va se passer là prochainement, est-ce que vous pouvez nous assurer, Agnès Pannier-Runacher, que cet argent sera bien fléché et ira bien vers l'adaptation ? On sait bien ce qui va se passer sur le budget, on sait qu'on va augmenter le budget de la défense, on sait qu'on va remettre dans le shaker un certain nombre de choses qui avaient été actées et mises en place pour le budget. Est-ce qu'on est sûr que ça, c'est sécurisé à 100%.
Oui, on sait que c'est sécurisé pour une raison que je vais redire, c'est-à-dire que la répétition des événements climatiques qui nous obligent à agir sont des piqûres de rappel qui reviennent quasiment toutes les semaines et qui nous rappellent une chose, le coût de l'inaction est extraordinairement plus élevé et même à très court terme.
Vous le disiez vous-même, c'est un rapport d'un sur huit. Hein. Vous le disiez vous-même.
Sur la partie dommage direct, c'est-à-dire vous n'avez pas investi pour protéger votre maison, vous payez 8 euros lorsque la tempête passe. Donc de 1 euro versus 8 euros pour réparer les dommages.
Donc sanctuariser en tout cas. Ce que j'entends là, dans le contexte aujourd'hui, dans les changements budgétaires qu'on a forcément en face de nous, budget sanctuarisé.
Tout à fait. Et pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que si on ne le fait pas tout de suite, ça coûtera beaucoup plus cher demain, et ça, les élus locaux sont les premiers à en être persuadés.
Je voudrais qu'on retourne au standard, quand même, parce que c'est le principe du téléphone sonne. J'ai pas oublié qu'il y avait
un volet...
Ouais, on va y aller, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a 1000 questions là-dessus. Je voudrais d'abord qu'on écoute Fred, qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Bonsoir, madame la ministre. J'avais une question. La projection à plus 4 degrés, n'est-ce pas une forme d'abdication, sachant que il y a encore quelques années, on était sur des projections à 2,5, 2,7. Et puis, j'ai une remarque qui sous-tend un peu ma question. Est-ce qu'on réalise réellement ce que représente plus 4 degrés? À savoir qu'aujourd'hui, on est à 1,5, à 1,7 degrés. C'est déjà monstrueux dans certaines régions. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est. Chez nous, en France, moi j'habite le Sud, je sais ce qu'est la chaleur. J'ai un recul de 25 ans, puisque j'habite la région de Montpellier depuis 25 ans. J'ai vu l'évolution. 25 ans, c'est très peu. Et puis par rapport à la réponse de la ministre concernant le coût de l'inaction, je rappelle le rapport Stern qui date de 2006, savoir presque 20 ans, et qui disait clairement que l'inaction se paierait très, très cher. Et malheureusement, on y est aujourd'hui et on écope du mieux que possible, mais j'ai peur que ça soit vraiment Fred, insuffisant.
Merci beaucoup, Fred. La ministre va vous répondre, Agnès Pannier-Runacher.
Je le redis effectivement, et merci Fred pour votre question. Plus 4 degrés, c'est le réchauffement de la France à horizon 2100. C'est ce que nous disent les scientifiques sur la base de toutes les actions climatiques sur lesquelles les États se sont engagés. C'est-à-dire que ça incorpore le fait que la France fasse des efforts en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et je rappelle que la France est à moins 30% de baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 90 et a fait moins 20% sur les 7 dernières années depuis 2017. C'est pour vous montrer qu'il faut aussi regarder les progrès qui ont été réalisés par la France.
Et plus 4 degrés en 2100, c'est réaliste. Hein. C'est pas la fourchette haute, c'est le scénario
réaliste.
Et plus
4 degrés, c'est par rapport à un réchauffement de la planète de l'ordre de 2,7 degrés, c'est-à-dire le scénario central du GIEC, la France se réchauffe plus vite que le reste de la planète, pas parce qu'elle fait mal le travail, mais parce que sa position géographique fait qu'elle se réchauffe plus vite, de même que les montagnes se réchauffent plus vite en France que les plaines. Donc ce sont des données qui sont scientifiques et qui ne disent rien de notre détermination, évidemment, à baisser les émissions de gaz à effet de serre.
Alors, puisque les questions tombent sur la 69, il y avait celle de Marion tout à l'heure, mais il y en a d'autres, effectivement, beaucoup qui arrivent sur WhatsApp. Question là-dessus, vous soutenez l'appel de l'État sur la 69, Agnès Pannier-Runacher, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que, et c'est le sens des questions de nos auditeurs, est-ce que c'est pas au fond contradictoire, l'impact environnemental existe, ça personne ne dit le contraire, donc bétoniser un certain nombre de zones, est-ce que c'est pas contraire précisément à l'adaptation?
Alors, d'abord, rappeler que notre droit environnemental est un des plus durs au monde et un des plus exigeants, et qu'à chaque fois qu'on bétonise un mètre carré, il y a une compensation. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas éviter, réduire, compenser, hein, c'est la logique, mais je rappelle aux uns et aux autres que lorsqu'on compense un hectare, on le compense en règle générale par beaucoup plus en matière de biodiversité, de remise en place de zones humides, etc. C'est très important de le rappeler. Donc ce n'est pas une perte sèche, c'est un échange. Ensuite, si on revient sur le projet...
J'entends nos auditeurs nous dire ça sert à quoi de bétonner d'un côté si c'est pour récupérer de l'autre? On n'a qu'à rien bétonner du tout, comme
oui,
ça on n'a rien
pour récupérer. Exactement, on arrive sur la question. La question, c'est si on compense, est-ce que ça vaut quand même le coup de faire cette autoroute? Est-ce que c'est s'adapter au changement climatique que de construire
si
cette autoroute?
Pourquoi
même si on compense?
Mais précisément, d'abord, il faut compenser, c'est une évidence.
C'est
et c'est la loi française. Et c'est la loi française. Elle est intangible. Et je rappelle que ce projet a fait l'objet de 6 recours devant le juge avant ce 7e recours et que tous ces recours ont été gagnés, notamment sur ces différents éléments. Donc c'est quand même important de le redire. Et ensuite, pourquoi on fait ce projet? Alors, c'est pas moi qui vais le dire, c'est les élus locaux qui en parlent le mieux. D'abord, parce que c'est un projet qui est un projet de désenclavement. Vous savez, quand on parle depuis Paris, qu'on a 6 départs d'autoroute, qu'on a 3 aéroports, qu'on a je ne sais pas combien de gares...
Les gens qui sont opposés à la 69 ne parlent pas depuis Paris, Madame Pannier-Runacher, ils parlent depuis la 69.
Alors, ça dépend, parce que si vous regardez les élus locaux qui sont quand même... qui ont été élus par la population, qui ont été élus en mettant en avant justement ce projet. qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, je pense à Carole Delga, je pense au président du département, je pense à un certain nombre de maires de villages qui sont aujourd'hui traversés par la route nationale et qui voient passer camion sur camion et qui constatent un taux d'accident bien supérieur à la moyenne de nos routes.
Mais les camions seront aussi sur l'autoroute, hein.
Oui, mais ils seront pas, ils traverseront pas des villages. Et je veux dire que quand vous vivez dans la ruralité, ça fait toute la différence, parce qu'il est rare que votre enfant traverse la rue de l'autoroute, alors qu'il est un peu plus courant qu'il traverse la rue principale du village, qu'il y fasse du vélo, que vous-même, vous soyez sur les bas-côtés, que vous voyez les camions passer. Et lorsque vous avez 18 accidents, dont 6 morts sur les 4 dernières années,
mais sur les,
vous avez
sur
aussi
les autoroutes,
un bénéfice. Donc c'est ce bénéfice que nous voulons aussi valoriser.
Pardon, mais sur les autoroutes et sur les contournements routiers, est-ce que c'est pas l'État stratège de dire aux élus locaux, attention, là, on est en train de présenter un plan de stratégie d'adaptation au changement climatique, ces projets-là sont du passé ? C'est pas à l'État de le dire ?
L'État a cette approche-là, c'est-à-dire que vous avez des projets qui sont aujourd'hui abandonnés, je pense au contournement de Ménac, par exemple, et il y a des projets qui sont soutenus parce que nous estimons, parce qu'on l'a travaillé avec les élus locaux, parce qu'aussi il y a l'état d'avancement du projet, c'est-à-dire il y a le gain écologique réel que représenterait l'arrêt du projet, et parce qu'il y a aussi une demande de la population. Et encore une fois, je reprends cette image de Paris parce qu'elle est importante. Bien sûr qu'il y a des gens localement qui sont contre le projet, mais il y a aussi énormément de gens qui sont pour ce projet. Et encore une fois, quand vous avez des maires qui ont été élus sur le fait qu'ils soutenaient ce projet, quand vous avez des familles qui en ont assez de voir passer des camions sur la route principale de leur village, qui ont peur pour leurs enfants, qui ont peur d'être à vélo. Quand vous avez des activités économiques qui menacent de fermer parce que justement l'enclavement du territoire fait qu'ils n'ont pas les mêmes chances et la même compétitivité que d'autres activités, il faut aussi prendre en compte cette réalité. Et l'écologie, c'est pas empêcher les projets. L'écologie, c'est vraiment concilier les usages, je dirais, des activités humaines et la protection de la nature, et trouver les meilleurs équilibres selon cette séquence. On évite au maximum les activités qui sont négatives, on réduit leur impact et on les compense.
S'il vous plaît, je voudrais qu'on avance et qu'on aille au standard, retrouver Philippe qui nous attend. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Madame le ministre, bonsoir à l'équipe. Je suis élu municipal dans un petit village à côté du Verdon. On est en pleine rédaction du plan local d'urbanisme et la majorité du conseil, ainsi que pas mal de gens, refusent qu'on installe des panneaux solaires sur les toits, alors que le village n'est pas classé et que le gouvernement pousse à l'équipement des bâtiments communaux.
Et donc vous êtes coincé, Philippe, on entend votre question, Agnès Pannier-Runacher. Est-ce qu'à un moment, on va poser la question comme ça, est-ce qu'à un moment, parce qu'il faut bien que la transition se fasse, parce qu'il faut que l'adaptation se fasse aussi, il va falloir, on pourra, imposer un certain nombre de choses. C'est le cas par exemple des panneaux de Philippe. Alors, ou est-ce que imposer est totalement hors sujet ?
En fait, on impose un certain nombre de choses. Philippe évoque les panneaux sur les toits. Vous savez qu'il y a une loi que j'ai portée sur l'accélération des énergies renouvelables qui impose d'équiper les grands parkings d'ombrières avec des panneaux photovoltaïques dès lors que le parking fait une certaine taille avec des dates pour mettre en œuvre cela. Donc, on le fait sur les espaces où on en a besoin. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de nos politiques qui sont évidemment laissées à la main des collectivités locales parce que cette politique ne va pas nécessairement être nécessaire ou indispensable pour atteindre nos objectifs de transition énergétique. Juste un chiffre, ces 3 dernières années, on a augmenté notre production d'énergie décarbonée de 30%. Autant d'ailleurs sur le nucléaire, en faisant tout un travail de remontée de la performance industrielle, que sur les énergies renouvelables en déployant de nouvelles installations. Qui en parle ? Ces 30% font qu'aujourd'hui, notre électricité est décarbonée à 95%.
Je voudrais qu'on poursuive sur la question de Philippe. Est-ce que ça veut dire, d'une manière générale, encore une fois, on parle d'adaptation, qu'on re-regarde les plans d'urbanisme, qu'on remet le nez dedans, qu'on redécoupe, qu'on voit où est-ce qu'on ne construit plus désormais, où est-ce que même on détruit dans certains endroits parce que l'eau y est venue une fois, y est venue deux fois, y est venue trois fois. Est-ce qu'on va jusque-là ?
Ça veut dire que lorsque vous allez élaborer de nouveaux plans d'urbanisme, il faut d'abord donner et équiper les maires, les membres des conseils municipaux, de toutes les données qui leur disent s'ils sont en bord de mer, où sera la mer en 2030, où sera la mer en 2050, s'ils sont en montagne, quels sont les risques de par exemple, de rupture d'un lac sous glacier, de façon à éviter les zones qui deviennent des zones de danger.
Sur un littoral où il y a déjà des maisons, parce qu'on a construit précédemment sur des zones de danger et depuis très longtemps, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit ces maisons-là vont devoir à terme être détruites ? Est-ce qu'on dit ça aux gens ?
Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, moi je l'ai vécu dans le Pas-de-Calais, à la suite des inondations de 2023
par
et 2024.
Par exemple, trois de suite au même endroit.
60 ménages ont été accompagnés dans leur réinstallation, c'est-à-dire qu'elles ont abandonné leur maison. On leur a dit, très franchement, aujourd'hui, votre maison est à risque. Elle est dans une zone où cet épisode risque de se répéter, c'est dangereux pour vous, ça pose un problème sur la valeur de votre patrimoine. Et nous vous proposons une solution de sortie où on vous reloge dans la même commune, mais sur un espace où vous êtes sécurisé. Et effectivement, 60 ménages ont accepté cette relocation. Et ça, c'est le fonds Barnier, notamment.
Et si l'eau n'est pas encore venue, mais qu'on le sait, on le voit, il y a des cartographies, voilà, dans X temps, dans 20 ans, on sait que cette zone sera inondée. Est-ce qu'on se dit, vous avez encore 20 ans devant vous ? Ou est-ce que déjà, on imagine reculer cette zone ?
Alors là, il faut faire très attention. Vous avez ce qui est aujourd'hui occupé et il y a ce que vous allez installer. Il est très clair que si vous avez des zones dont on sait qu'elles vont être recouvertes par l'eau, il faut arrêter de construire.
Et même il faut interdire,
il faut arrêter de construire. Et ça fait partie justement de la mise à niveau des documents d'urbanisme, revoir par exemple les plans de prévention des risques, que ce soit inondations ou liés à la submersion marine. Ça, c'est le premier point. S'agissant des gens qui ont des maisons, des activités, par exemple les campings, on a aussi, nous, des conchyliculteurs qui sont installés, là, il faut accompagner le repli en bon ordre. Mais attention à ne pas affoler tout le monde. On ne va pas le faire du jour au lendemain.
J'allais vous demander, le repli commence quand, en fait ? Le repli commence...
Le repli en bon ordre, il commence dans les 20 ou 30 années qui viennent. Okay. C'est-à-dire que lorsque vous vendez votre bien, la personne qui est susceptible de le racheter doit savoir où situe votre bien par rapport à la ligne du trait de côte. C'est quand même le minimum d'informations pour pouvoir faire un achat en conséquence. Et on va progressivement accompagner les uns et les autres. C'est pas la même chose de reloger aussi des gens dont c'est le domicile et des gens dont c'est une résidence secondaire. Donc il y a tout un travail qui est fait commune par commune pour accompagner en bon ordre d'ici 2030, 2070 et 2100 ces installations, ces aménagements.
On est en train de parler d'adaptation au réchauffement climatique.
Et je précise une chose, c'est que même dans l'adaptation, on peut freiner le mouvement du trait de côte. On a aujourd'hui des communes qui montrent, par exemple, qu'elles ont divisé par deux la montée progressive ou le retrait en renaturant, en ayant des solutions fondées sur la nature. Et donc là aussi, même dans l'adaptation, il y a du combat.
On parle d'adaptation donc au réchauffement climatique dans le téléphone sonne avec la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, avec Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter, et avec vous Agnès, bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
On vous écoute.
Je travaille dans la rénovation de l'habitat et les aides, notamment MPR, mettent beaucoup l'accent sur la lutte contre le froid à travers la rénovation globale, avec des vraies exigences de performance, mais pas vraiment contre le chaud. Où là, on fait vraiment pas grand-chose. Donc, serait-il pas temps d'avoir les mêmes exigences que contre le froid ?
Merci beaucoup, Agnès. Agnès Pannier-Runacher, c'est dans les propositions. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change les DPE en tenant compte, effectivement, de la capacité à résister au très chaud, au chaud, à la canicule ? Est-ce qu'il y a une deuxième note, désormais, pour le chaud ? Comment on fait ?
Déjà, on adapte MaPrimeRénov', et Agnès a parfaitement raison de le souligner. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' doit accompagner la rénovation thermique d'été, le confort d'été comme on l'appelle, c'est-à-dire faire en sorte que les logements ne soient pas des grille-pain, c'est absolument essentiel. Et donc c'est adapter le niveau de soutien, de subvention à des travaux qui visent à mettre en œuvre ce confort d'été. Ça peut être des stores, ça peut être des dispositifs qu'on met sur les fenêtres. Donc, ce n'est pas nécessairement juste de l'isolation, puisqu'a priori, l'isolation que l'on fait pour l'hiver doit aussi profiter dans le confort d'été. La deuxième chose, c'est de s'assurer, et ça, on va l'avoir sur la rénovation thermique des bâtiments publics ou sur la rénovation thermique donc des écoles, par exemple. Je pense à toutes les EHPAD, les maisons de retraite. S'assurer qu'on ménage bien des pièces. C'est aujourd'hui obligatoire dans les EHPAD qu'il y ait une pièce réfrigérée dans les EHPAD. Mais de manière plus générale, c'est de changer nos préconisations en termes de rénovation de ces bâtiments qui accueillent des personnes vulnérables. Et c'est absolument fondamental à l'hôpital, puisque là aussi, il y aura des secteurs où on ne pourra pas se permettre d'avoir des zones où la canicule fragilise les malades. Et donc, il faudra mener des rénovations thermiques d'été.
Et est-ce que les collectivités auront les moyens de mener toutes ces rénovations? Vous parliez des écoles, des collèges, des lycées, des hôpitaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas un plan pluriannuel, finalement, de financement pour l'adaptation dédié à ces collectivités? Alors, qui aujourd'hui souvent disent qu'elles n'ont pas assez d'argent pour tout ça.
Vous savez que sur la rénovation thermique des écoles, ça fait partie du travail que nous menons sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que la question de l'adaptation au changement climatique rencontre aussi la question de la lutte contre le dérèglement climatique et que nous avons un plan où nous avons investi plus de 500 millions d'euros et nous continuons à investir et dans lequel la Caisse des dépôts prend sa barre puisqu'elle rajoute aussi plusieurs centaines de millions d'euros de crédit. Donc sur les écoles, c'est parti et c'est des plans qui ont cette dimension effectivement pluriannuelle. Sur d'autres bâtiments publics, on est en train d'ajuster l'objectif. Sur les hôpitaux, c'est un des enjeux que nous avons devant nous, puisqu'on est sur un budget qui est un petit peu différent dans sa nature, et on rénove aussi et on construit de nouveaux hôpitaux qui incorporent cette dimension de dérèglement climatique par nature. Vous savez qu'un certain nombre de projets de nouveaux hôpitaux sont actuellement en construction.
Très très rapidement, je parlais des DPE tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un DPE chaud, un DPE froid? Enfin, est-ce qu'il faut inventer ça ou alors modifier les notes? Parce que certains logements, pour les gens qui nous écoutent, sont très bien isolés à la chaleur, pas du tout au froid ou inversement.
Alors attention, hein, le DPE, c'est votre consommation d'énergie et vos émissions de CO2. Donc cette note là,
donc on
peu
en fait
importe
troisième.
Le moment de l'année, si vous devez consommer de l'électricité pour chauffer ou pour refroidir, la question de l'absence d'isolation thermique se pose à peu près dans les mêmes termes.
Jean-Louis est avec nous. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir,
on vous écoute.
Merci de prendre ma question.
Allez-y Jean-Louis.
J'avais une question à Madame la Ministre sur la cohérence de notre gouvernement, puisque au niveau ministère de l'Agriculture, eh bien, on coupe complètement les ponts avec une agriculture résiliente. La bio, par exemple, avec la suppression de l'Office national de la bio, on se retrouve dans une agriculture avec une volonté d'aller vers une agriculture d'exportation qui est beaucoup plus consommatrice de carbone et on n'est pas du tout proactif par rapport au rôle réel de l'agriculture dans ce réchauffement climatique.
Juste une précision avant de vous donner la
Merci
parole,
Jean-Louis.
Madame la Ministre. L'agence bio n'a pas été supprimée. Hein. Je voulais juste corriger dans la question de l'auditeur. Il était question que, voilà, qu'elle soit supprimée, mais elle ne l'a pas été.
Voilà, tout à fait. Et la ministre a défendu le fait que l'agence bio ne soit pas supprimée. Donc, je le redis, Annie Genevard, ma collègue, soutient l'agriculture bio. Elle a renforcé les crédits. Elle a fait un certain nombre d'annonces d'accompagnement, puisqu'on observe que beaucoup d'exploitations aujourd'hui en bio souffrent parce qu'elles ont peu de débouchés, parce que malheureusement, la croissance de ce marché, les Français n'achètent plus autant de bio qu'ils l'en achetaient il y a encore 2 ans. Ou en tout cas la croissance est en berne et donc le sujet c'est ça fait partie de sa feuille de route d'accompagner les exploitations en bio. Par ailleurs, je veux aussi éviter qu'on aille trop vite dans la caricature. Nous avons des mesures sur le dérèglement climatique qui sont très concrètes. Le plan méditerranéen que nous avons lancé l'année dernière et qui a été mis en œuvre par Annie Genevard avec des crédits clairement fléchés sur ce qui représente en gros l'ancienne région Languedoc-Roussillon est un plan qui vise à accompagner les agriculteurs face au dérèglement climatique en posant la question comment on fait de l'agriculture qui est plus résiliente, peut-être une autre agriculture, comment on a une agriculture qui est moins gourmande en eau pour pouvoir faire face à la sécheresse, comment on accompagne les agriculteurs pour changer leurs approches.
Mais sur l'agriculture, est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde avec la ministre de l'Agriculture sur cette question de l'adaptation justement des fermes au changement climatique? Est-ce que par exemple, s'il est question de réduire les prélèvements en eau l'été prochain parce qu'on est à nouveau dans un été de sécheresse, elle sera d'accord avec vous de réduire ses prélèvements par exemple de 10%? Il n'y a pas un risque de conflit entre vous?
Mais je crois que le sujet ne se pose pas dans ces termes en réalité.
C'est ça l'adaptation.
Non mais le sujet par exemple des conflits d'usage de l'eau, c'est comment vous maintenez une capacité à nourrir vos populations, et ça c'est la production agricole, et comment vous maintenez en même temps un accès des Françaises et des Français sur les usages de l'eau les plus prioritaires, donc eau potable évidemment, et alimentation, enfin eau pour les animaux. Et ce sont les deux usages qui sont prioritaires de manière évidente. De même que autant il y a un travail qui est fait pour accompagner les agriculteurs pour passer par exemple sur une irrigation au goutte à goutte, pour choisir des cultures qui soient moins gourmandes en eau, et on voit un certain nombre de cultures qui prennent leur place dans nos productions agricoles, je pense au chanvre, je pense au lin, des cultures comme ça qui sont assez résilientes. Autant dans le même temps, par exemple dans mon département du Pas-de-Calais, on sait qu'à un moment, on va devoir irriguer, chose qu'on n'a jamais connue avant. Pourquoi ? Parce que les épisodes de sécheresse vont nous obliger, pour pouvoir produire notre alimentation, à mettre un petit peu d'eau. Sans eau, vous n'avez pas de culture agricole. On ne peut pas à la fois revendiquer une alimentation de qualité qui soit produite sur le sol français avec, là aussi, regardons un peu l'image globale, des exigences en matière d'utilisation des phytosanitaires et de nitrates qui soient quand même assez élevées et qui se comparent très favorablement par rapport au reste du monde, et en même temps dire « débrouillez-vous aux agriculteurs, vous n'aurez pas d'eau, il faut de l'eau pour cultiver ». Par contre, ça va vouloir dire qu'il va falloir changer nos modes de culture, ajuster peut-être ce qu'on fait pousser, et faire en sorte de réduire l'impact, grosso modo, eau, intrants, qu'il s'agisse des phytos et qu'il s'agisse des nitrates, pour être plus résilient demain. Et c'est aussi un enjeu d'indépendance, parce qu'on les importe, et les pesticides, et les nitrates.
C'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui pourraient être faites, et qui, sur lesquelles on est quand même très très loin pour l'instant, ni Espagne ni Runacher.
Ah ben, je ne partage pas ce point de vue. Vous regardez, moi je l'ai suivi d'assez près, toute la stratégie par exemple en matière de phytosanitaire, la réalité c'est qu'on a baissé de 95% l'usage des phytosanitaires qui étaient classés dans la catégorie dangereux.
Mais s'adapter, ça serait par exemple abandonner le maïs dans le sud-ouest. Est-ce que ça c'est envisageable dans un plan national d'adaptation au changement climatique?
Alors parce là aussi, on tombe beaucoup dans la caricature. Ce qu'on est en train de regarder, je prenais la question du plan méditerranéen, et ce que nous demandent par exemple les jeunes agriculteurs, c'est quelles sont les priorités d'alimentation et de production que nous avons en matière agricole. Quelles sont-elles ? On commence par là. Comment on les positionne sur le territoire français en fonction du dérèglement climatique ? Qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qui monte vers le nord ? Qu'est-ce qui apparaît ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Et comment ensuite on adapte notre arsenal, je dirais, d'aide à la production pour faire en sorte que les agriculteurs aient une agriculture résiliente. Moi, j'ai des agriculteurs qui me disent aujourd'hui, si vous me dites qu'il faut faire de la pistache parce que c'est plus résilient dans le sud de la France, parce que ça demande moins d'eau, parce que ça demande moins d'intrants et parce que ça a une valeur stratégique pour nourrir la population, je fais de la pistache. Je n'ai pas de problème. Simplement, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin...
Ils ont besoin de savoir.
J'ai besoin d'avoir un plan. J'ai besoin d'avoir une stratégie. J'ai besoin qu'on m'accompagne et qu'on ne donne pas des mouvements de stop and go en permanence.
Et d'être sûr surtout que les pistaches se vendront en l'occurrence et que ça leur fera et que ça fera...
Et donc d'avoir un marché
gagneront
des gens
leur
du
vie.
Dimanche, bien sûr.
Martin est avec nous. Bonsoir Martin.
Bonsoir Fabienne, bonsoir Madame la Ministre.
On vous écoute Martin.
Alors, je suis enchanté de vous parler ce soir. Voilà, j'ai 58 ans, je suis jardinier par choix. Donc je travaille à l'extérieur toute l'année, quel que soit le temps. Aujourd'hui il a plu, ça vous fera plaisir de savoir qu'il pleut dans le midi depuis 2 jours. Donc j'ai été un peu mouillé, mais l'été, à partir du moment où il fait 35 degrés, on ne peut pas s'adapter. On a beau mettre des chapeaux, boire 4 litres d'eau par jour, mettre un t-shirt mouillé sur la tête, etc. L'organisme humain ne supporte pas cette température. Donc là, je parle au nom de tous les travailleurs de l'extérieur, que ce soit les couvreurs, les travailleurs agricoles, les gens qui travaillent dans le BTP. Comment on fait pour s'adapter, nous ?
C'est une bonne question, Martin, qu'on va poser à la ministre. Je voudrais rajouter la question de Valérie, enfin la remarque de Valérie sur WhatsApp qui dit ceci, il n'y a pas de limite haute température dans le code du travail, on fait bosser au-delà de 32 degrés avec des enfants dans des endroits clos, construits de façon à ne pas pouvoir être aérés. C'est dangereux pour nous tous, mais pourtant il faut bosser.
Alors c'est complètement vrai et ça fait partie des mesures du plan, c'est-à-dire comment on fait du dérèglement climatique et de l'adaptation un objet de discussion entre les organisations syndicales et les représentants.
Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une ligne haute température et qu'on se dise au-delà de 32 degrés, les gens qui travaillent à l'extérieur ne pourront pas travailler à l'extérieur.
Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, un, qu'il faut regarder l'organisation du travail et le déplacement des horaires. Parce que vous savez comme moi qu'il fait le plus chaud, grosso modo, entre midi et 16 heures. Mmh. Ça veut dire, deux, qu'il faut discuter du suivi par la médecine du travail et du repérage des personnes qui sont les plus sensibles à la chaleur, puisque vous savez que certaines pathologies, je pense notamment cardiaques, supposent d'avoir un suivi rapproché. Ça veut dire, trois, qu'il faut équiper les travailleurs en équipement de protection en fonction de la nature des travaux qu'ils ont. Ça veut dire, quatre, qu'il faut accepter qu'à certains moments, il faut s'arrêter. Et les plus avancés aujourd'hui sur ce sujet-là, ce sont les Grecs. Les Grecs, pour eux, 34 degrés l'été, c'est une habitude. Et ils ont un droit du travail et de la négociation collective qui est particulièrement avancé sur ces sujets et qui est clairement une source d'inspiration pour les Français.
Rapidement,
vous parliez de la température qui se réchauffe encore plus en France qu'ailleurs. On peut parler de la montagne aussi, il y a de moins en moins de neige. Les sommets se réchauffent encore plus vite que le reste. Est-ce que c'est cohérent, les JO 2030, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique ? Est-ce que vous estimez que ça va dans le bon sens ?
Alors là encore, si vous voulez, attention à ne pas tomber dans la caricature. On est face à un dérèglement qui s'impose progressivement avec des points de passage où on est capable de qualifier en 2030, en 2040, en 2050. Et ce plan, il se projette à horizon 2100. C'est-à-dire qu'il dit, ce qu'on construit aujourd'hui qui a vocation à durer 80 ans, eh ben, il faut le construire comme si c'était fait pour 2100 et d'ores et déjà anticiper les plus 4 degrés. Mais ce qui se passera dans 5 ans, ce n'est pas un changement de but en blanc, c'est un changement progressif.
Donc ça veut dire que s'il faut beaucoup de neige artificielle, par exemple, s'il faut beaucoup de neige artificielle pendant les JO en 2030, on ira chercher la neige artificielle.
Soyons simples, le dérèglement climatique n'a pas changé la température de fonte de l'eau, c'est-à-dire que si les températures sont à 0 degré ou au-dessus, vous n'avez pas de neige artificielle. C'est une donnée physique. Et c'est là aussi où, sur le dérèglement climatique, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, tel qu'on
Donc ça
organise
veut dire
aujourd'hui...
Pas de neige artificielle.
Mais pardon, aujourd'hui, on n'est pas à plus 5 degrés en haut des pistes.
Il y a déjà beaucoup de neige artificielle dans les stations, parfois
50%. Mais parce qu'il y a du froid. Parce qu'il y a du froid. Vous ne pouvez pas faire de la neige artificielle sur des températures qui sont supérieures.
Oui, c'est le sens de la question de Célia. Donc, s'il fait 5 degrés dans 5 ans, il n'y aura pas de...
Il y a bien un sujet que je connais un petit peu, c'est celui-là. Pour faire de la neige artificielle, il vous faut à peu près être à moins 5 degrés pour la pouvoir produire de la neige et la faire tenir. Et lorsque les températures augmentent, la neige fond. C'est un processus qui est physiquement tout à fait connu. Donc, les JO de 2030 s'organisent de manière à minimiser l'impact environnemental, comme on l'a fait avec les JO de 2024. Enfin, regardons ce qu'on a fait en 2024.
Ce sera peut-être les derniers JO d'hiver.
La France a montré le chemin en montrant qu'on était capable d'organiser des JO avec une empreinte environnementale tout à fait limitée. Et c'est ce qu'on souhaite faire pour les JO de 2030.
Il faut me promettre
et 2030, ce n'est pas 2050.
Il faut me promettre que vous allez pouvoir répondre très rapidement à Agnès Pannier-Runacher, mais je voudrais quand même vous donner cette citation d'Antoine Peillon, qui a quitté le secrétaire général de la planification écologique. Comme vous le savez, sur cette phrase, la transition écologique aujourd'hui est à un point de bascule. On a tout pour accélérer, mais il y a une forme de grand doute sur l'écologie. Est-ce que oui, vous pensez qu'il y a un grand doute sur l'écologie aujourd'hui et que l'essentiel de votre travail, c'est ce doute-là ?
Bien sûr qu'il y a un grand doute sur l'écologie, d'abord parce qu'il y a une forme de trumpisation des esprits et que beaucoup de populistes nient la science, et donc ça c'est très inquiétant, et surtout parce que le populisme prenne en otage les classes populaires en expliquant que l'écologie est un sujet de bobos aisés des grandes villes. Or, aujourd'hui, l'écologie, enfin les principales victimes du dérèglement climatique, hein, ceux qui vont perdre leur maison, ceux qui risquent de perdre leur emploi, je rappelle que 80% des emplois sont liés à des actifs naturels, c'est les classes populaires, ceux dont la santé est mise en difficulté.
Je vais être obligé de vous couper là, vraiment, parce que vous avez entendu les bips. Mais merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. Merci à tous pour vos très nombreux appels. Merci à Célia. La question des petits bateaux, ce sera après ça, après le flash.